mais ça reste quand même un beau cadeau de Noël.
Ah ouais, je pense que ça va rester une de mes grosses frustrations, là, de ne pas l'avoir vu au cinéma. Peut-être qu'ils vont nous sortir quand les cinémas sont ouverts, je sais pas, je croise les doigts, mais...
Ah, je suis pas sûre. Ils avaient déjà ressorti en avant et ça avait pas forcément mieux marché la deuxième fois.
Ouais.
À voir. Bienvenue sur le canapé de Popcorn Thérapie. Servez-vous une tasse de café, thé, chocolat, gingerbread latte, tout ce que vous voulez. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité.
Et aujourd'hui, on va vous parler du nouveau Pixar, sorti directement sur Disney+, le 25 décembre, Soul. Ce film, il a été réalisé par Pete Docter et co-réalisé par Kem Powers, qui travaillent tous deux chez Pixar Animation Studio. Pete Docter, il est connu entre autres pour avoir réalisé Monstres et compagnie, Là-haut ou encore Vice-versa. Et il a d'ailleurs été nommé pour 8 Oscars, dont 2 victoires pour Là-haut et Vice-versa dans la catégorie meilleur film d'animation. Bref, vous l'avez compris, je pense que ce film, il était assez attendu au tournant.
Ouais. Bah, Pete Docter, c'est vraiment un pilier de Pixar, et c'est même plus qu'un pilier, puisque depuis le départ de John Lasseter il y a 2 ans, oui, c'est ça, c'est lui qui est à la tête du studio Pixar, puisqu'on a un duo maintenant, on a Jennifer Lee pour Disney et Pete Docter pour Pixar, donc, donc oui, je pense qu'il s'était très très attendu, et puis bon, voilà, Monstres et compagnie, Là-haut, Vice-versa, c'est quand même... les grands succès de Pixar, donc ouais.
Oui, ah bah, c'est sûr.
Donc on va vous dire un peu ce qu'on a pensé de ce Soul. Et comme d'habitude, on va essayer de commencer par une partie sans spoiler, où on reviendra sur le pitch en général, et puis sur notre avis, pour que vous puissiez vous arrêter là et vous faire un avis si vous hésitez encore à regarder le film ou pas. Et puis après, on sautera dans le grand avant, pour parler du film en profondeur et aller dans tout ce qui fait la personnalité de ce film et qu'est-ce qui fait sa flamme. Je vais encore plus loin.
J'adore toutes les références.
Ceux qui n'ont pas vu le film.
Les références.
Ceux qui n'ont pas vu le film ne vont pas encore comprendre de quoi on parle. Mais...
c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle des spoilers sans contexte, ça marche.
C'est ça. Donc, pour commencer par le pitch... Alors, donc, le personnage principal, c'est Joe Gardner, qui a l'impression, en fait, de passer complètement à côté de sa vie. Donc, c'est un musicien passionné de jazz. Vraiment, le jazz, c'est sa vie. Et c'est un pianiste virtuose. Et en fait, il est un peu coincé dans son poste de prof de musique, qui est assez loin de ses rêves de carrière sur scène. Et il a la quarantaine, à peu près, un peu plus. Et au moment où, enfin, il semble toucher son rêve de devenir... un vrai pianiste de scène, un accident propulse son âme dans le grand avant, qui est en fait l'endroit où les âmes qui attendent de s'incarner reçoivent leur personnalité. Et donc on va s'arrêter là, parce que ce n'est que vraiment le premier quart d'heure du film, à peu près, je ne sais pas exactement.
Oui,
mais j'en savais pas plus, en fait, moi, avant de voir le film, donc je pense que ça vaut le coup de garder le reste... en surprise pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent quand même écouter notre partie sans spoiler.
Ouais, je suis d'accord. Je ne savais pas plus non plus. Je crois pas avoir vu la bande-annonce en entière. Je crois que j'avais vu des petits trailers ou juste des passages de la musique. Et au final, je pense que c'est vraiment sympa de regarder sans savoir ce qui va se passer et sans comprendre un peu là où ils veulent en venir. Par contre, pour la petite anecdote, donc là, comme Marjo l'a dit, effectivement, il arrive dans un endroit où les âmes attendent pour s'incarner en humain, en homme. D'ailleurs, je me suis demandé si elles s'incarnent en animaux aussi. Mais bon, bref, on en reviendra peut-être plus tard. Et du coup, c'est là où les âmes attendent pour recevoir leur personnalité. Et il faut savoir que l'idée, elle a germé dans la tête de Pete Docter il y a 23 ans, donc ça date, quand il est devenu père. En fait, il pensait avant que la personnalité d'une personne se développait uniquement en fonction de son interaction avec le monde, donc quand on grandit, et avec notre éducation, etc. Et à la naissance de son fils, quand il avait même que quelques jours, en fait, il a ressenti directement que son fils avait quelque chose d'unique, de spécifique en lui, qu'il avait déjà, en fait, sa propre personnalité, bon, qui va se développer par la suite, mais voilà, qu'il avait quand même quelque chose d'unique et de spécifique. Et la question, du coup, s'est posée, mais d'où lui vient cette personnalité, d'où lui vient cette spécificité qui fait de mon fils, mon fils à l'heure actuelle.
Ouais, c'est là qu'on voit vraiment la particularité de Pete Docter chez Pixar, d'avoir vraiment des idées concepts sur lesquelles il brode après tout un film. C'était le cas, évidemment, pour Vice-Versa, sur les émotions. Et il y avait, je pense que du coup, c'était peut-être aussi sa première, son premier développement de cette idée vis-à-vis de son enfant, de se dire, bon, après, il y a les émotions. En regardant grandir son enfant, il a dû se dire, bon, il y a les émotions qui arrivent les unes après les autres. Il en a fait un film. Ouais. Et puis, avant ça, sur Monstres et compagnie, sur d'où viennent les cauchemars des enfants, cette histoire de monstres dans le placard, etc. Et du coup, il est parti hyper loin sur, ouais. sur cette idée de monde parallèle des monstres. Et... Donc ouais, c'est ça que j'adore hein, chez Pixar en général et chez Pete Docter en particulier, c'est ces idées concepts et l'inventivité qu'il y a après pour créer tout un univers autour de ça, quoi.
Ah, mais c'est sûr qu'il est hyper créatif, hein. C'est incroyable. Donc on va partir sur notre avis général maintenant, donc toujours sans spoiler, voilà, est-ce qu'on le conseille, est-ce qu'on a aimé, pas aimé, est-ce qu'on a un avis nuancé? Moi, de mon côté, j'avais de très hautes attentes, donc comme on l'a dit, Pete Docter.
Ouais.
Et puis, en fait, je suis une grande fan de Lao, faut le savoir, même si, je l'avoue, hein, je crois que j'ai déjà dû le dire, je l'ai découvert il y a 2-3 ans seulement. Moi, les films tristes, pendant toute une période de ma vie, c'était vraiment... vraiment pas ce dont j'avais besoin, et du coup je l'ai découvert il y a peu de temps parce que mon copain m'a dit il faut absolument que tu le vois, toi qui adores Disney, Pixar, c'est un des meilleurs, regarde-le. Et vraiment je suis tombée dedans, et du coup voilà, comme j'ai vu que c'était le même réalisateur, tout de suite je me suis dit oh, il faut absolument que je regarde, et en fait j'étais vraiment dans cette attente, il faut absolument que j'aime. De base j'adore New York, j'adore le jazz. J'avais adoré Vice-Versa, j'avais aimé effectivement, comme t'en as parlé, qu'il parle d'un sujet si complexe. Donc en fait, j'étais partie en mode, je vais aimer ce film, ça va être mon cadeau de Noël, je vais l'adorer. Au final, qu'en est-il? J'ai quand même beaucoup aimé. Je vais apporter quelques nuances, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé. Après l'avoir regardé, je m'étais dit, waouh, c'est un super beau film. Maintenant, est-ce que je prendrais plaisir à le revoir une deuxième fois? Je pense pas. Je me suis trompée. Je l'ai vu une deuxième fois parce que je voulais le voir en VO et en VF. Et en fait, je l'ai tout autant apprécié, voire peut-être plus. Alors, est-ce que c'est parce que c'était en VF la deuxième fois et que du coup j'ai préféré la VF? Je ne sais pas. Je pense que j'ai préféré quand même quelques passages en VO. Alors, pour un spoiler sans contexte, Silent Coyote. Je sais pas, ce passage m'a fait mourir de rire, je ne sais pas pourquoi, mais bref.
Moi, j'ai trouvé mignon en français, ça m'a pas fait rire, oui. Mais j'ai trouvé mignon.
Ben, comme je l'avais vu en anglais d'abord... En français, ça me l'a un peu gâché, entre guillemets. Enfin, pas gâché, mais j'ai moins aimé. Non, mais voilà, j'ai préféré quand même quelques passages en VO. Mais sinon, j'ai beaucoup plus rigolé en VF. Et du coup, c'est peut-être ça qui a joué. Mais contrairement voilà, à ce que je pensais au départ, en mode c'est un très beau film, mais voilà, avoir une fois, pas plus. Non, j'ai toujours autant apprécié en le voyant une deuxième fois. C'est un film qui fait beaucoup réfléchir. C'est un film qui visuellement est magnifique. Les petits détails sont incroyables. Ça m'a fait penser quand... Je sais pas si vous vous souvenez, quand... c'était quoi? Les Indestructibles 2 est sorti 10 ans après le 1. On voyait la différence dans la texture des pulls, les cheveux mouillés. Enfin, tout le monde était là en mode wow, « Waouh, c'est un chef-d'œuvre d'animation !» Et ben là, pour moi, également. Pareil, ouais. Le pull de Joe, quand il joue du piano, on voit un gros plan. C'est incroyable, t'as l'impression que c'est un vrai... Ses doigts qui pianotent, ouais. Les lumières, hein, vraiment, la sueur sur leur front à des moments. Enfin, vraiment, c'est un film magnifique. J'ai adoré toutes les références un peu adultes, que ce soit sur New York, sur les traders de Wall Street, le jazz, plein d'autres petites références que je vais pas citer pour laisser la surprise à ceux qui ne l'auraient pas vu, mais il y avait quand même beaucoup de références adultes, donc on en parlera aussi plus tard, mais voilà, j'ai adoré aussi tout ça, je me suis sentie en fait concernée par le film, alors que quand je regarde Cendrillon par exemple, c'est mon âme d'enfant qui est concernée, là c'était vraiment ma partie adulte qui a aimé le film. Donc bref, dans tous les cas, voilà, je le valide, je le conseille fortement. Je lui mettrai un 9 sur 10. Et je pense que le point manquant, c'est un petit truc qui m'a manqué et que j'arrive pas à définir.
Ouais.
Peut-être dans l'apport émotionnel qui m'a pas autant touché qu'un vice-versa ou qu'un... Non, quoi que vice-versa, c'est surtout l'humour que j'ai aimé, c'est moins le côté émotionnel, mais qu'un Lao, par exemple, qui me fait pleurer, bon, là, voilà, j'ai pas pleuré, après, je pleure rarement quand même devant les films, mais voilà, il m'a manqué peut-être un apport émotionnel, peut-être, je ne sais pas trop, mais voilà, un 9 sur 10 parce qu'il m'a manqué quelque chose qui fait que c'est pas, même si c'est un magnifique film, ça va pas être dans mon top 3 des films. Par contre, je veux juste revenir avant de laisser du coup Marjo donner son avis, parce que là je parle trop, ça va pas du tout. Je veux juste revenir sur un point. J'ai lu pas mal d'avis, de critiques, de commentaires sur les réseaux sociaux, et il y en a certains qui, même plusieurs, qui disent « Oui, ce film il parle de la mort, comme si on avait besoin de ça en ce moment, c'est dur, pourquoi vous nous mettez ça à Noël ?» Mais moi je suis absolument pas d'accord, donc si vous voyez ces critiques-là, ne les écoutez pas. C'est pas un film qui parle de la mort, c'est vraiment un film qui parle de la vie. Et je pense que c'est important de le dire parce que peut-être que les personnes sont passées à côté du film, ou peut-être que c'est moi qui suis passée à côté, je ne sais pas. Mais je suis absolument pas d'accord pour dire que c'est un film morbide ou qui traite sur la mort. Ça traite vraiment sur la vie.
Ah ouais, ouais, ça je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un gros contresens de penser que ça parle de la mort. Et peut-être que moi c'est aussi ce à quoi je m'attendais, puisque...
Ouais.
Je savais que c'était le personnage principal, bah, il meurt au début du film.
Dès le début.
Et en fait, déjà, c'est pas le cas. et ouais, non, ça parle pas du tout de ça. Et d'ailleurs, on parlait du grand avant, mais voilà, on va pas dans le grand après, en fait. On est vraiment dans le grand avant, le moment avant de s'incarner. Et on reste vraiment concentré là. Donc, c'est vraiment... Là, je suis vraiment d'accord que c'est pas du tout... C'est pas du tout le sujet, la mort, au final. C'est plutôt la raison de vivre et ce qui... Ouais, ce qui rend la vie valable d'être vécue, entre guillemets.
Ouais.
Donc, ouais. Mais du coup, pour revenir sur mon avis, bah, exactement comme toi, pour exactement la même raison que toi, j'avais beaucoup, beaucoup d'attentes pour ce film et j'étais à peu près sûre de... Enfin, j'étais même sûre que j'allais l'adorer. Et du coup, j'avais quand même déjà une grosse frustration avant même de voir le film. C'est qu'il soit, que je puisse pas le découvrir en salle, sur grand écran. Et ça, je pense que c'est resté une frustration dont j'ai pas vraiment réussi à me détacher en le regardant. Donc je pense que ça a joué aussi sur mon appréciation du film. C'est que j'arrêtais pas de me dire devant ma télé, même si j'avais la chance devant la belle télé de mes parents, avec un son assez correct, etc. Bah, à chaque fois, j'étais genre... Ça aurait eu plus d'effet au cinéma. Oh, ça aussi, ça aurait eu plus d'effet au cinéma. Et justement, parce que aussi, je trouvais ce film tellement beau visuellement, etc., que bah, d'un côté, j'étais hyper impressionnée, et d'un autre côté, je me disais, mais mince, quoi, ça mérite d'être vu dans des meilleures conditions, quoi. Donc ça a été à la fois un compliment pour le film et une frustration qui m'a empêchée aussi, qui m'a fait sortir en fait de temps en temps et qui m'a empêchée de l'apprécier à sa juste valeur, je pense. Mais bon, j'ai quand même beaucoup apprécié le film. J'ai été surprise par quelques-unes des trouvailles et c'est ce que j'attendais par rapport à toutes ces idées et cette idée des âmes en formation avant de s'incarner. Il y avait quelques petits points que j'ai vraiment appréciés. Donc ouais, après, quand je suis sortie du film, j'étais contente, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé qu'il y avait des passages très drôles aussi, mais il manquait aussi quelque chose et j'ai du mal à mettre le point dessus, le doigt dessus, et je pense que dans notre discussion spoiler, on pourra peut-être essayer ensemble... en bon pop-corn thérapie de faire le tri dans nos pensées, oui. Dans ce qu'on pense de ce film. Mais voilà, c'est un beau film, je trouve qu'il est réussi, mais il n'a pas eu l'impact émotionnel que j'attendais d'un film de Pete Docter, d'un film qui parle de ce sujet. Donc voilà, je suis aussi d'accord que c'est un film qui parle plus aux adultes. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était presque un peu dommage parce que moi, ce que j'apprécie, ce que j'attends dans un Pixar, et c'est peut-être parce que voilà, je me suis mis devant en me disant c'est un Pixar, je m'attends à ce qu'il ait ce ton-là et qu'il ait un double ton en fait à la fois pour parler à ma part d'enfant et à ma part d'adulte et de faire un peu cette passerelle entre les deux. C'est ça que j'adore dans les Pixar d'habitude, que j'adorais petite et que je continue à adorer adulte. C'est cette passerelle qu'il réussit à faire entre les deux. Et là, j'avais vraiment l'impression que ma part enfant était un peu laissée de côté, quoi. Et que voilà, on me proposait un discours très philosophique et moral que j'apprécie, mais avec un peu moins d'inventivité et un petit peu moins de touches sensibles et que j'avais eues dans Monstres et Compagnie, dans, même dans Coco, ouais, ou dans Vice Versa encore plus. Donc voilà, petite frustration, mais quand même un très très beau film que je conseille chaudement. Mais je serais curieuse d'avoir des retours de parents qui le regardent avec des enfants et de voir comment les enfants réagissent, parce que c'est difficile aussi de vraiment anticiper. Ça se trouve, les enfants adorent, mais qu'ils projettent quelque chose de complètement différent que les adultes projettent et que ça leur plaît quand même. Mais je serais quand même curieuse d'avoir des retours d'enfants.
Bah, je pense que ça dépend des enfants, en fait. Moi, je vois mes cousins, par exemple, au même âge. Je pense qu'il y en a qui apprécieraient et il y en a d'autres pas du tout. Mais comme au même âge, il y en a qui regardent Peppa Pig et il y en a qui regardent Peau d'âne, tu vois. Donc, quand je compare les deux, je me dis oui, effectivement, ils n'ont pas les mêmes attentes d'un dessin animé ou d'un film. Mais effectivement, je pense qu'il a été fait pour un public adulte. Et j'ai du coup été regarder quand même sur les réseaux un peu sur les réseaux sociaux les critiques de personnes qui ont des enfants. Et pareil, bah voilà, il y a des adultes qui ont dit oh, mes enfants ont adoré. Alors effectivement, ils ont pas tout compris, mais on leur a expliqué et voilà. Et il y a des adultes qui ont dit ah, mes enfants ont détesté, au bout de 10 minutes, ils sont partis. Donc je pense que effectivement ça dépend de vos enfants.
Ouais.
Ça dépend de leur âge. Après il y a quand même des gags et des visuels qui sont faits aussi pour les enfants, hein. Je pense typiquement au chat. Bon, ouais. Je pense que moi il y a des gags qui m'ont pas fait spécialement rire pour lui, mais je me suis dit je suis sûre que j'aurais eu ma cousine à côté et elle aurait été morte de rire.
Ouais, ça nous a fait beaucoup rire à la maison, hein, pour le coup.
Ah bon
on est que des adultes, mais ça nous a fait vraiment beaucoup rire.
Ah non, moi le chat ne m'a pas convaincue, mais d'autres gags m'ont fait beaucoup rire.
Ouais.
Enfin voilà, donc je pense qu'on a terminé notre partie sans spoiler.
Oui, maintenant on a hâte d'aller dans les petits détails.
Ah ouais, je pense que ça va être la partie la plus longue, donc. Si vous avez vu le film, ou s'il ne vous tente absolument pas et que vous avez juste envie de nous entendre débattre sur des concepts philosophiques, vous êtes les bienvenus.
Attention au spoiler. Attention au spoiler. Alors c'est parti pour parler cette fois-ci de un peu plus en détail du concept du film. Des concepts même, puisque je pense que c'est... Dans toute la filmographie Pixar, c'est celui qui va, je pense, le plus loin dans les grands concepts métaphysiques et philosophiques, et surtout qui ne cherche pas forcément à les simplifier, contrairement à Vice Versa, qui cherchait quand même, qui expliquait des trucs très pointus au niveau de la psyché, la psychologie, etc., mais de manière très simplifiée et... Ouais, en schématique, on va dire. Mais là non, il n'y a pas trop de... Enfin, si, il y a des trouvailles visuelles pour simplifier la construction d'une personnalité, etc. Mais il y a quand même beaucoup des choses qui restent quand même dans du discours philosophique, des citations assez profondes, etc., qui ne cherchent pas forcément à mettre en cartoon, quoi, entre guillemets. Donc, c'est vraiment le cœur de la manière dont est construit le film, quoi.
Ouais. Et en parlant de ça, ça m'a fait rire. On en a parlé vaguement du... J'avais lu une critique, moi, qui m'a pas plu parce qu'il descendait le film. J'ai trouvé que c'était de manière pas hyper constructive. Marjo avait un peu plus de recul sur ça. Mais dans les commentaires, les gens se disputaient un petit peu en opposant leur avis. Mais il y avait un commentaire qui m'a fait rire parce que quelqu'un comparait, du coup... Saul à un film de Nolan en disant bah ouais des fois c'est compliqué et des fois t'aimes bien et des fois c'est compliqué des fois t'aimes pas, tout le monde n'apprécie pas de réfléchir devant un film et je me suis dit ouais c'est pas faux, ça m'a fait rire comme on avait eu un épisode justement sur Nolan où on avait dit effectivement bah voilà on peut aimer ou ne pas aimer le style hein, aussi chacun son avis.
Oui, alors je pense que c'est quand même pas au point d'un Nolan dans le sens où
non,
l'histoire est quand même
non.
très simple. Enfin, je veux dire, c'est une progression qui est... Là, pour le coup, quand même, la progression est quand même destinée aussi à un jeune public. Enfin, je pense que le jeune public peut comprendre ce qui se passe sans vraiment forcément qu'on leur apporte beaucoup de choses. C'est peut-être le dénouement qui est peut-être un peu plus... comprendre pourquoi ça se finit comme ça. Et c'est peut-être aussi une de mes frustrations, c'est qu'ils auraient pu boucler un peu plus certaines choses pour rendre la fin, pour moi, plus satisfaisante et peut-être pour les enfants aussi plus accessible. Mais je pense quand même que le parallèle n'est pas non plus absurde parce que, comme un Nolan, Il y a plusieurs façons d'apprécier ce genre de film. On peut se laisser porter, parce que comme on dit, visuellement, c'est très très beau, etc. Et puis, on peut faire un podcast qui va durer, je ne sais pas, plus d'une heure, c'est sûr, pour parler des, pour parler des débats philosophiques que ce film amène, pour en parler après, après l'avoir vu en famille, autour de la table. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu penses de ce concept du grand avant, de comment d'où viennent notre personnalité. Donc, ouais, il y a plein de façons de l'apprécier. Mais je pense que les gens qui aiment la simplicité peuvent quand même apprécier ça, ou je sais pas.
Oui, non, bien sûr, je suis d'accord.
Contrairement à Nolan, où là, on peut clairement être largué. Là, c'est pas le cas, quand même.
Non.
Donc, un des concepts dont on a commencé à parler, c'est le fameux grand avant, où les âmes qui attendent, donc c'est les nouvelles âmes, les jeunes âmes qui attendent d'être incarnées, reçoivent leur personnalité en allant dans des petites espèces de petits îlots associés à un caractère. Et pour vraiment avoir leur passe pour s'incarner, ils doivent trouver leur flamme, donc leur motivation pour vivre. Et ça leur est apporté par un mentor qui est en fait... l'âme de quelqu'un de décédé qui arrive et qui a fait des grands accomplissements dans sa vie et qui arrive pour aider les jeunes âmes à trouver leur flamme. Donc ouais, moi j'ai bien aimé l'idée générale. Après, je reste un peu sur ma faim sur l'exécution, notamment cette idée là des petits îlots où on va chercher un trait de sa personnalité. Ça fait vraiment, j'ai trouvé que ça faisait trop machine, tu vois, ça fait un peu trop usine, où genre les petites âmes, elles rentrent, elles sortent, et puis c'est tout, quoi. J'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus développé, ce côté-là, et surtout j'aurais bien aimé que soit plus développé le grand bazar où les âmes cherchent leur flamme, parce que je trouve que visuellement c'était hyper intéressant. Dans les making-of, ils parlent qu'ils se sont inspirés des parce qu'il y a des making-of bonus sur Disney+, et ça j'ai apprécié, parce que d'habitude on doit attendre le DVD pour avoir ça, ouais. Donc ça c'était cool de l'avoir, un des petits avantages de l'avoir sur Disney+ tout de suite. Et ils disaient qu'ils s'étaient inspirés des grandes expositions universelles pour ce truc-là. Et j'aurais bien aimé, ouais, que ça soit un petit peu plus fouillé, un peu la manière dont ils avaient fait dans Vice Versa, avec les îles de personnalité, où ils avaient exploré du coup plein de styles visuels différents pour tout ça. Et c'est, voilà, c'est une critique un petit peu pointue, parce que j'ai quand même apprécié ce concept et comment c'était mis en scène. Mais et voilà, j'aurais bien aimé que ça aille un petit peu plus loin.
Ouais, alors que moi, ça m'a pas... du tout dérangé, en fait. J'ai trouvé ça pile comme il fallait, ni trop peu, ni trop pas assez. Dans mes vagues souvenirs, parce que Vice Versa, ça fait un moment que je l'ai pas vu, d'ailleurs ça me donne envie de le revoir, j'avais trouvé que c'était trop long, tout ce passage sur les îles de personnalité. Mais c'est peut-être parce que j'aimais pas l'éléphant, l'espèce d'éléphant...
le doudou,
je sais pas quoi, là.
Ouais, ouais, l'ami imaginaire.
Ouais, j'étais pas très fan de lui, et du coup tout le passage avec lui, je l'ai trouvé un peu lent, mais... Du coup, là, non, en fait, ça m'a vraiment pas dérangé. J'ai trouvé ça très, très sympa. J'ai bien aimé les petits gags du mouet à chaque fois que 22 fait une activité, des super activités, faut avouer, ou des activités où elle réussit super bien et qu'à chaque fois, elle fait « Mouais ». Je trouvais ça génial. Ça me faisait... Mais je reparle quand on va parler de 22, mais ça me faisait penser typiquement à mes ados. Des fois, tu leur montres des trucs cool et tout, et puis tu regardes « Mouais ».
Ouais.
Non, mais un peu d'énergie, un peu de
d'enthousiasme,
un
peu de...
C'est ça, d'enthousiasme. Mais voilà, donc ça m'a fait rire, j'ai bien aimé, et non, le je trouvais ça sympa, même le concept des Michel, j'ai trouvé ça sympa. Par contre, je me suis posé une question, pourquoi Michel en français et Jerry en anglais?
Ouais,
j'ai pas compris.
Alors, je pense que Michel, ça marche, parce que nous, ça nous a fait mourir de rire, hein, le coup de Michel quand ils annoncent qu'ils s'appellent tous Michel.
Oui.
En fait, je pense que Michel, ça marche bien dans cette idée de « Ah, mais comme vos cerveaux d'humains sont trop limités, on va dire qu'on s'appelle Michel, quoi. »
Ouais.
Alors que peut-être que Jerry, c'était un
Jerry,
peu...
Ça.
Déjà, peut-être qu'on n'aurait pas tout de suite compris en « Ouais, on va s'appeler Jerry. » Enfin, ça fait... Peut-être qu'on entend autre chose en français. On entend, je sais pas... Enfin, Jerry, c'est pas un nom commun, tu vois, donc... pour nos cerveaux de français, Jerry, c'est pas assez commun, peut-être.
Oui,
mais par contre, effectivement, vu qu'il y a ce duo Jerry-Terry, en VO, ça n'a rien à voir. Michel-Terry, pour le coup.
Bah oui,
là, par contre,
ça,
on
aucun...
sait pas pourquoi
bien.
L'autre s'appelle Terry, quoi. Là, il n'y a aucune explication en français pourquoi l'autre s'appelle Terry, alors que Jerry-Terry, il y a plus de sens, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Moi, j'ai bien aimé, surtout le design, hein, des Michel. Je trouve ça même vraiment cool. Et puis en plus, j'avais déjà vu avant sur Disney+, dans toute la série des Making of Pixar, il y avait tout un portrait de celle qui bosse chez Pixar, qui a un look génial. Je ne sais pas si tu l'avais vu, toute cette série
Non.
sur Disney+, mais je t'invite à vraiment aller voir parce que du coup, il y a plusieurs personnes qui ont bossé sur Soul et notamment celle qui a eu l'idée de ces personnages en fil de fer et comment les animer, etc. Donc ouais, ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais en fait, l'idée même des Michel, je les ai trouvés sympas, mais un peu... Alors, je voulais faire la blague un peu plat parce que évidemment, ils sont en 2D. Mais ça va pas assez loin. Et après, en réfléchissant, je me suis dit que peut-être c'est un tout petit truc qui m'aurait manqué, c'est de voir les âmes vraiment s'incarner en fait. Et du coup, qu'on suive une petite âme prendre ses personnalités, avoir sa flamme, s'incarner et de voir en fait, ce qui m'a manqué, c'est de voir les humains que ça donne. Pour donner vraiment, pour qu'on sorte de ce côté vraiment juste éthéré. Alors je sais que c'était fait exprès parce que c'est centré sur Joe et du coup la partie incarnée, c'est Joe qui l'incarne justement. Mais j'aurais bien aimé voir vraiment, tu vois, par exemple, on ne sait pas à quoi ressemblait l'âme de Joe avant de s'incarner. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a reçu comme
C'est vrai.
caractère. Et ça, j'aurais bien aimé, quoi. C'était juste pour donner tout ça un côté un petit peu plus concret. Mais encore une fois, hein, c'est du pinaillage j'essaie de trouver pourquoi j'ai pas totalement adhéré. Mais les idées étaient vraiment, vraiment chouettes, quoi.
Non, je suis d'accord avec toi, ça pourrait être sympa, je pense que c'était pas l'objet du film, mais ça peut donner des idées pour un futur court-métrage peut-être. J'ai lu que, je ne sais plus où, mais j'ai lu qu'ils songeaient à des courts-métrages.
Ouais,
Donc
ça
ça
s'y
peut être
prête. Ouais.
une idée, ça
Ouais,
pourrait
non,
être
ça s'y
sympa.
prête. Ouais, carrément.
Ça s'y prête, ça... en tout cas, oui, sur ces petits points-là, pas forcément une suite sur Joe, mais sur ces points-là, oui. Deuxième... concept entre guillemets dont on va parler maintenant, c'est la zone. Donc la zone, c'est cet endroit où les âmes sont, enfin les âmes, les humains, l'âme des humains vont quand on est hyper concentré dans ce qu'on fait, dans une activité, dans notre passion, dans notre travail des fois. Les âmes égarées, l'équipage de vin de lune, enfin voilà, tout ça.
Ouais. Alors moi, ouais, vraiment, c'est ce que j'ai préféré visuellement déjà. J'ai trouvé que c'était, enfin, ça m'a tout de suite parlé en fait, cette espèce d'endroit de plan astral. Enfin, j'ai vraiment adoré. Je trouvais que c'était le plus efficace pour montrer vraiment le concept à la fois de la zone où on va quand on est vraiment à fond dans quelque chose et la frontière fine qu'il y a avec le fait d'être égaré, que si on n'arrive pas à sortir de cette zone et si on est trop obsédé par aller dans cette zone, on finit en âme égarée et on n'arrive plus à se reconnecter à son corps. Et ça, j'ai vraiment, vraiment trouvé que c'était la meilleur concept un peu métaphysique du film, quoi. C'était
Ah,
le plus efficace.
je suis d'accord, c'est ce que j'ai préféré aussi en fait, ce côté où quand le plaisir tourne à l'obsession et du coup te détache de ta vie, je trouvais ça génial et ça m'a fait complètement réfléchir en fait. Tu te dis, bon, moi j'ai la chance de pas avoir, j'ai beaucoup de passion, mais du coup voilà, j'ai beaucoup de passion.
Ouais.
Je suis une vraie enfant pour ça, j'ai énormément de choses qui m'intéressent, qui me passionnent et je me suis jamais vraiment plongée, je vais jamais au bout des choses. C'est aussi un défaut, mais c'est aussi une qualité dans le sens où du coup je suis très ouverte et je me déconnecte pas entre guillemets, mais c'est vrai que ça du coup ça te fait penser, ça tu penses à d'autres personnes que tu connais dans tes proches, hein, où tu te dis tu peux vite sombrer effectivement et pour moi d'ailleurs Joe était un peu une âme égarée en fait, même si on le voit pas comme ça, mais quand on voit qu'il pense que jazz 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 tout le temps dans sa tête, même chez le coiffeur, et le mec lui dit ah oh, bah pour une fois que tu me parlais pas que de jazz, même à sa mère, enfin vraiment, il y avait que ça dans sa tête. Et moi, je me suis dit, bah typiquement, je suis sûre qu'il aurait pu. Il était à deux doigts de basculer et devenir une âme égarée. Ou ça se trouve, il l'était déjà et on le sait pas en fait, parce que
Ouais.
quand il part, on sait pas où est-ce qu'était son âme.
Ouais, c'est vrai. Moi, la note que tu avais mise là-dessus, ça m'a fait réfléchir. Effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui aurait peut-être. N'étais pas obligé de nous le montrer, mais peut-être que juste le fameux personnage de Vandelune, là, quand il voit Joe, il aurait pu lui glisser quelque chose comme oui, tiens, je t'ai vu. souvent dans la zone et être à deux doigts de devenir une âme égarée ou un truc comme ça. Mais bon, ça aurait un peu cassé la progression du film pour arriver à la réalisation que Joe, il fallait qu'il s'en rende compte tout seul, en fait, de tout ça. Et si on lui avait montré, bon, bah voilà, t'étais une âme égarée, ça aurait été trop direct. Mais je suis vraiment d'accord. Je pense que quand on voit la manière dont il se comporte et quand on voit la manière dont se comportent les âmes égarées, justement, avec l'exemple du trader, etc., Joe était quand même, aurait pu être dans cette catégorie-là, c'est vrai.
Et du coup, ça m'a fait aussi réfléchir à autre chose. Je me suis dit, dans la vraie vie, des personnes qui sont des âmes égarées, voilà, on peut les appeler comme ça, du coup, qui sont dans cet état de transe et au point de se déconnecter de leur vie, souvent, quand c'est leur travail qui fait ça, c'est leur corps qui finissent par leur dire « tu vas trop loin » et ils font un burn-out. Et du coup, souvent, c'est ça qui font que ils se réaccrochent à la vie en disant « oula, ça va pas du tout ». Et je me suis demandé, quand c'est ton loisir, quand c'est ton plaisir qui te déconnecte, comme le jazz, là, qu'est-ce qui peut te faire ramener à la vie, te dire « stop, ça tourne en obsession » À part tes proches, ta famille, tes amis, si t'as pas un entourage qui prend soin de toi, entre guillemets, comment est-ce que tu réalises que tu vas trop loin dans ta passion, que ça devient une obsession et que t'arrives plus à profiter de la vie comme tu devrais le faire?
Je pense que tu peux faire un burn-out avec autre chose que ton travail, sauf que on le désigne pas comme un burn-out, mais je pense que ça peut être tout simplement un état dépressif, en fait, de sortir de... ou de l'anxiété. Enfin, parce qu'il parle aussi, justement, à partir du moment où t'es tellement obsédé que tu deviens... prisonnier de pensées anxieuses qui te font devenir une âme égarée, ça prend la forme de crise d'angoisse, ça prend la forme de ce genre de choses. Donc je pense que c'est vrai qu'on associe le burn-out au travail. Mais les symptômes d'un burn-out, tu peux les avoir dans d'autres types de symptômes, de problèmes de santé mentale. Mais je trouvais que c'était vraiment intéressant comme manière de le voir. Et puis bon, on en reparlera pour le personnage de 22, mais c'est ce qui m'a aussi vachement plu avec le personnage de 22, parce que cet attachement, enfin le fait que même sans avoir été incarnée, elle aille dans ce monde des âmes égarées, c'est quand même assez fort aussi comme image, quoi. Et puis, voilà, l'équipage de Vente de Lune, je trouve trop drôle.
Les trous sont trop marrants. Ils sont vraiment marrants. Et du coup, en parlant des personnages, on va peut-être s'attarder un petit peu sur... parce qu'on parle de Joe, on parle de 22, s'attarder un petit peu sur eux.
Ouais. Alors, du coup, on va commencer par Joe quand même, hein, parce que c'est quand même le centre du film, hein, le personnage principal.
Ouais.
Et en fait, je pense que c'est un peu... lui en particulier, les personnages en général, qui font que j'ai quelques petites frustrations, mais qui sont vraiment juste du point de vue de la narration, parce qu'encore une fois, le contenu, ces personnages-là sont intéressants, mais il y a des petites choses qui me frustrent un peu. Donc en fait, Joe, je l'ai vraiment beaucoup aimé au début du film. Je trouve que c'était très efficace, les premières scènes, avant qu'il meure en fait, qu'il tombe dans le trou, vraiment nous présenter qui il est et être en empathie avec lui. J'ai beaucoup aimé sa scène en classe, quoi. J'ai trouvé très, très bien faite. Ouais. Et en fait, ils m'ont un peu perdue à partir du moment où il passe dans l'autre monde, et surtout quand il s'incarne en chat, parce que à partir du moment où en fait, il meurt au mauvais moment, selon lui, ça tourne à l'obsession, en fait, même s'il avait déjà cette obsession avant, mais avant c'était vraiment dans son quotidien, dans sa vie, quoi, donc ça faisait plus c'était plus empathique, et là il devient vraiment idée fixe, quoi, et du coup il m'agaçait, c'était normal, hein, je pense que c'était fait pour, mais du coup j'ai l'impression que ils nous le font grandir, échanger de manière très belle, et c'est très joli la scène où il se rend compte c'est le moment de réalisation. Mais je trouve que, je sais que dans tous les Pixar, normalement, je pleure, parce qu'autant toi, tu disais que tu pleures pas facilement devant les films. Moi, je suis une vraie fontaine. Hein, je pleure devant tout et n'importe quoi. Et en particulier les Pixar. Enfin, je veux dire, je pense que les Pixar qui m'ont pas fait pleurer se comptent sur une demi-main à peine. Hein, et donc là, je voyais que cette scène-là aurait dû me faire pleurer, que Joe aurait dû me faire pleurer, et que ça n'a pas marché. Alors que le message me parle, quoi. Mais je pense que tout le cheminement avant qui a fait que j'avais perdu un peu cette empathie avec Joe que j'avais au tout début du film, pour l'avoir ouais. plus avec 22, on en reparlera plus tard, et ben ça m'a coupé de vraiment de me laisser porter par l'émotion de Joe hein, en soi quoi. Mais ouais. bon, c'est quand même un personnage qui est bien bien écrit et j'ai vu dans les making of que à la base, ils voulaient le faire beaucoup plus antipathique.
Oh, et bon, heureusement qu'ils l'ont pas fait.
Ouais, heureusement, parce que déjà là, j'ai trouvé qu'il avait des fois des moments, je crois que tu vas en parler, des moments qui sont un petit oui. peu... ouais, quand même, Joe, tu pourrais être plus cool, quoi. C'était déjà un équilibre un peu précaire pour moi, mais heureusement qu'ils l'ont pas rendu plus pénible.
Alors, au départ, j'allais te dire, oui, t'as tout dit, j'ai pas grand-chose à rajouter. Et puis en réfléchissant, en fait, j'ai trop de trucs à rajouter. c'est ridicule. Mais bref. Déjà, la première chose, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai préféré le film au personnage, et ce qui ouais. est plutôt rare chez moi. D'habitude, je m'attache vraiment à un personnage, quitte à avoir plein de goodies de ce personnage, des tasses, des mugs, des peluches. Bon, maintenant, plus trop les peluches, mais... Et là, pour une fois, j'ai préféré le film au personnage. J'ai pas envie d'acheter des goodies. C'est bizarre, hein, mais bon. Voilà.
Ouais. Mais vraiment, là, quand j'ai vu que tu avais écrit ça, je me suis dit, mais c'est ça. Enfin, parce que pour moi, ils essayent de nous dire, bon, voilà, c'est Joe le centre, et il faut que vous intéressiez à Joe. Et moi, je me suis intéressée au reste, en fait.
Ouais, et moi aussi.
Moins à Joe, alors que c'était pas ce qu'ils attendaient de nous, quoi.
Non, mais bon, je pense que ça se trouve, des personnes se sont vachement intéressées à Joe. Je pense ouais. que, comme tu m'as dit juste avant qu'on enregistre, et c'est pas mal de le redire là, ce film, il peut être bien aussi à différents moments de notre vie. On pense qu'on peut l'apprécier différemment à différents moments de notre vie. Et du coup, deux personnes qui n'en sont pas au même point, qui n'ont pas le même vécu, vont l'aimer différemment. Et effectivement, je pense que ça se trouve, il y a des personnes qui se sont attachées à Joe, qui se sont reconnues peut-être en lui, et qui ont prouvé beaucoup d'empathie, contrairement à nous deux, quoi. Mais... Donc sinon, du coup, bah moi, je l'ai bien aimé, de manière générale, Joe, même si j'avais énormément de mal à le comprendre. Plusieurs fois, j'ai pensé qu'il allait réagir d'une certaine façon, et du coup, je m'attendais à ce qu'il réagisse d'une certaine façon, et en fait, non, il faisait quelque chose de totalement différent. Et je pense à une scène, entre autres, mais il y en avait plein. C'est celle où son élève Connie vient lui dire qu'elle souhaite arrêter la musique, et qu'il est tellement préoccupé à retrouver son corps, qu'il dit à 22, non, laisse-la, on s'en moque, laisse tomber, on verra ça plus tard. Et là, j'étais là, mais c'est horrible, ouais, la pauvre ouais. Et je me suis dit, mais c'est tellement égoïste, en fait. Et puis, je me suis dit d'un côté, est-ce que c'est égoïste? Parce qu'effectivement, il pense à lui, là, en particulier, il est dans son obsession, comme on a dit tout à l'heure. Ou est-ce que c'est parce qu'il connaît Connie et qu'il sait que, voilà, elle change d'avis souvent, que c'est pas la première fois qu'elle lui fait ça, et que du coup, bon, il se dit, ok, on s'en moque, on verra plus tard, je sais que de demain, elle va arriver en disant, c'est ma passion, trombone, je veux continuer. J'en sais rien. Mais en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, c'est cool parce que dans la vie, effectivement, on comprend pas forcément tout le monde, on n'anticipe pas les réactions des gens, et les gens peuvent avoir une réaction et on peut l'interpréter de différentes manières. Et dans les dessins animés, souvent, c'est pas le cas. La personnalité des héros, elle est très prévisible et on sait comment ils vont réagir au fur et à mesure où on les découvre. Et ce changement, ça m'a perturbée sur le moment. Avec le recul, je me dis, en fait, c'est sympa, c'est plus profond, c'est plus réaliste. Le fait de pas forcément le comprendre et de pas aimer comment il réagit, ouais, c'est bien. Et après, à mon deuxième visionnage... Je me suis du coup intéressée au fait que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis dit, en fait, c'est sûrement une âme égarée, et du coup, elle est trop dans son obsession, et elle est complètement égocentrique, d'où le fait que, voilà, c'est une âme égarée, entre guillemets. Et Michel, un des Michel le dit à un moment, en disant, bon, alors toi, vous allez être égocentrique. Et puis l'autre Michel le regarde en disant, non mais... il y en a un peu trop d'égocentriques en ce moment. Et ça m'a fait rire parce que, effectivement, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui sont tournés sur eux-mêmes. Et je me suis déjà fait la réflexion en disant, mais c'est moi ou de plus en plus de monde, c'est moi d'abord. Même en voiture, le nombre de personnes, c'est moi d'abord, on s'en fiche des autres, je suis seule au monde. Et du coup, j'ai bien aimé cette petite référence. Puis après, je me suis dit, ah, mais ça marche pour Joe aussi. Hein. Il a des écoutilles, il ne voit pas ce qui l'entoure. Et puis, au fur et à mesure, ça change. Au fur et à mesure, surtout quand il est en chat, on le voit qu'il regarde son propre corps, mais avec 22 à l'intérieur, avec un regard attendrissant. Et en même temps, où il commence à réaliser que il est peut-être pas tout à fait raison, quoi. Et à la fin, il devient vraiment aimable. Et du coup, c'est aussi pour ça que je l'aime bien, parce que je le comprends pas et parce qu'il évolue positivement.
Ouais, non, je suis assez d'accord. Après, ouais, sur la scène avec Connie, on en reparlera plus tard, mais... C'est une scène qui a vraiment tout changé en fait pour dans mon appréhension des deux personnages en fait de 22 et de Joe en fait parce que je l'aime vraiment beaucoup cette petite scène avec Connie qui arrive
Ouais.
mais je l'aime bien pour l'interaction que 22 va avoir avec elle en fait et du coup ça m'a complètement fait changer de parce que c'est une scène hyper importante pour 22 et pour Joe en fait il s'en rend pas compte.
Mais
C'est pas
ça.
important pour lui en fait et ça l'est pas, elle revient pas du tout en fait Connie après cette moment-là et ça me manque, j'en reparlerai après mais du coup c'est ce qui m'a fait changer en fait de focus d'empathie parce que jusque-là je comprenais Joe qui était en panique et enfin c'est normal qu'il soit en panique tu vois
Oui.
mais là à ce moment-là je me suis dit ah ouais non là il y a un souci quoi parce que juste avant il avait eu ce côté un peu il avait eu ce côté très malin avec 22 de lui offrir la part de pizza et qui a tout changé aussi pour 22. Et là, le fait qu'il ait pensé à ça 3 secondes avant et que là, il pense pas au fait que bah, si Connie vient le voir, c'est pour une raison et qu'il lui apporte, parce qu'il y avait cette jolie scène dans la classe avant que j'avais bien aimée, où tu te rends
Oui.
compte enfin qu'il la comprend bien, cette gamine, quoi. Et du coup, ouais, ça m'avait un peu déçue de la part de Joe. Mais au final, c'était un moment important pour 22, donc
C'est vrai. Dernier point sur Joe, et après on va pouvoir parler sur 22, je sais que t'as des choses à dire. Soul est le premier film des studios Pixar à présenter de nombreux personnages à la peau noire et brune, dont Joe. Et j'ai lu une interview qui expliquait que l'équipe a mis un soin vraiment particulier à s'assurer que tous les types de peau soient représentés, dans toute leur variété et leur authenticité, et que vraiment chacun ait sa propre couleur de peau, quoi. Que ce soit pas juste, ok, on te met la peau noire, on te met la peau marron, on te met la peau blanche, mais qu'ils avaient vraiment fait un effort là-dessus. Et c'est vrai que si on regarde, je trouve que c'est bel et bien le cas, et c'est quand même, ça montre quand même toute l'évolution, les techniques d'animation dont ils sont capables, les studios Pixar, et que c'est
Ouais.
top.
Et dans l'approche, enfin, du coup, on a parlé hein, que c'est que Ken Powers est co-réalisateur et lui, donc c'est un Afro-Américain new-yorkais qui a écrit en bonne partie le film avec Pete Docter qui avait l'idée de base, mais après il était quand même chargé de beaucoup de choses puisqu'il est dramaturge à la base, Ken Powers, et il s'est vraiment projeté, enfin, il a donné vraiment sa personnalité au personnage de Joe et c'est ce qui a C'est aussi grâce à lui que Joe est devenu un personnage beaucoup plus sympathique que ce qui était prévu à la base, parce que lui a l'air d'être plutôt sympathique comme gars. Donc,
Ouais.
mais pareil, il y a un portrait de lui dans les Making of Pixar sur Disney+ qui est très touchant. Donc,
Ah, mais j'irai voir.
j'invite à aller voir ça aussi.
Ouais, j'avais pas vu. On passe à 22?
Oui, la petite 22. Alors pour moi, en fait, et je pense que ça, c'est ce qui a fait que j'ai été un peu frustrée par le film, c'est que ça a été pour moi le cœur du film. Enfin, c'est le personnage que j'ai trouvé le plus attachant. Et c'est une erreur de ma part parce que c'est Joe le centre et c'est normal que ce soit Joe le centre. Mais voilà, j'ai été vraiment sensible à ce personnage de 22. Et en fait, voilà, ce qui a fait qu'à chaud après le film, je suis restée sur un goût. Oui, c'est que pendant tout le générique de fin, je me suis dit, mais il manque une scène, ils vont nous mettre une scène, il manque une scène. J'étais mais vraiment mais persuadée qu'ils allaient finir le film avec une image de 22 incarnée et qu'on allait la découvrir incarnée humaine, quoi. Enfin, avec un petit montage, de voir ce qu'elle allait devenir, quoi. Parce qu'ils nous avaient tellement. Enfin, il y a quand même ce passage parallèle, enfin, il y a cette ligne narrative parallèle à celle de Joe, où 22 bah, trouve sa raison de vivre
Ouais.
et trouve sa raison, enfin son envie, enfin qu'est-ce qui va la motiver à s'incarner. Et c'était une très jolie histoire, donc j'aurais voulu que ça aille au bout, mais il y a vraiment, il manque ce. Si, j'avais pas besoin de beaucoup, j'avais juste besoin d'une scène post-générique, hein, j'avais pas besoin de plus. Mais
C'est
voilà,
vrai.
ça m'a laissé sur ma faim et j'étais très triste. Donc voilà, je serais contente s'ils font un court-métrage où on voit, ou un petit bonus où on voit ça. Mais pour moi, ça avait sa place dans le générique, quoi. Et en général, il y a toujours des petites scènes dans le générique, dans les génériques Pixar. Et là, il n'y avait rien à part.
T'as regardé jusqu'au bout?
Ouais, il y avait une petite blague à la fin, mais c'était pas. Voilà, c'est Barbie à la fin de Toy Story 2, quoi. C'est pas.
Ouais.
Mais du coup,
Bon.
ouais, ça m'a manqué.
Bah, Moi, je m'attendais aussi, pas qu'on la voie grandir, mais juste bébé. Mais quand ça n'a pas été fait, ça m'a pas spécialement manqué. Après, je me suis vraiment dit, hein, mais je suis sûre qu'ils vont faire un court-métrage. Parce que ils adorent faire des courts-métrages. On a vu à l'Investor Day, ils nous en ont annoncé plusieurs. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils vont vraiment le faire, est-ce qu'ils vont pas vraiment le faire ou pas, mais sur le moment, ça m'a pas trop changé parce que je me suis dit, on le verra plus tard. Après, c'est,
Ouais.
j'avoue que si on le voit pas plus tard, petite déception, mais ouais. Ça m'a pas manqué autant que toi.
Ouais, mais moi je trouve que c'est vraiment, même si on l'a après, enfin moi je suis vraiment très attachée voilà, aux narrations
Ouais.
en cercle, enfin où il y a vraiment un écho, enfin il y a un début, un milieu, une fin, et puis la fin clôt vraiment un cercle, quoi. Et c'est vraiment le type de narration que je préfère. Et là, bah, c'était pas le cas. Donc c'est pas, ça en fait pas une histoire ratée, hein. Je pense qu'on peut l'apprécier comme ça, mais moi ça m'a manqué, quoi.
Après, est-ce que c'est pas pour dire, bah, quand une âme s'incarne, on sait pas du tout ce qu'elle devient, où elle va, on peut pas la suivre, on peut pas, tu vois. C'est peut-être aussi une manière de dire, bah, tout comme là, quand ils vont dans le grand après, pour l'instant, on a l'impression qu'ils vont dans un trou noir, mais on sait pas du tout ce qu'il y a. Et là, c'est pareil, nos âmes, ok, elles ont notre personnalité, mais après, elles arrivent sur Terre et on sait pas du tout ce qu'elles deviennent, où elles vont, dans quel pays, dans quel, tu vois.
Ouais, mais comme au final les âmes, elles reviennent pour devenir des mentors, certaines âmes reviennent pour devenir des mentors.
Ouais,
Voilà,
c'est vrai.
ça aurait pas été absurde. Et puis, alors effectivement, mais là, je pense que c'est carrément une histoire à part entière qu'ils peuvent développer en court-métrage ou dans un autre film, je sais pas. Mais moi, j'aurais juste eu envie de voir la vie humaine de 22 en. Voilà, avec des petites scènes comme ça, on voit enfin, qu'ils soient vraiment en lien avec ce qu'on a vu d'elle dans le corps de Joe, quoi, ses talents, quoi,
Ouais.
qu'elle a enfin, qu'elle se découvre d'être attentive, d'être hyper enthousiaste, d'être attentive à tout ce qui l'entoure, d'être très très douée pour parler aux gens
Écoutez.
et de rendre les gens heureux, quoi, autour d'elle. Donc j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, en fait, tu vois, qu'elle devienne travailleuse sociale ou je sais pas, tu vois, psy, je sais pas, mais. Et puis bon, voilà, si on va vraiment jusqu'au bout, mais là, j'aurais pas. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui avait plus sa place peut-être dans un court-métrage, de la voir après sa mort terrestre, devenir un mentor elle-même, tu vois.
Ouais.
Ça aurait été rigolo. Mais bon, ça aurait été sa petite revanche sur tous les mentors
Ouais, je
nuls qu'elle a
comprends.
eus. Parce que désolé, mais Mère Teresa,
Abraham
Mohamed
Lincoln.
Ali, Copernic, ils sont nuls comme mentors, je suis désolée.
Bah, c'est qu'ils n'avaient pas compris. Mais comme dit Michel à la fin, merci de nous avoir inspirés. Ils ont bien compris
C'est
qu'en
ça.
fait, ils s'y prenaient peut-être pas forcément bien non plus. Donc,
Ouais.
Et je disais tout à l'heure que j'avais préféré la VF, que ça m'avait fait un peu plus rire et que. Puis je pense notamment à des blagues que j'avais pas compris en VO. Je pense à la blague, est-ce qu'on dit un kebab ou un grec? Qui m'a fait mourir de rire en français. En anglais, en fait, je l'ai pas comprise. J'étais là, mais de quoi il parle? Mais hein? Parce qu'en plus, le sous-titre, ils avaient pas du tout mis kebab et grec.
Ah
Et du
ouais.
coup, je comprenais vraiment pas. J'étais là, mais hein, quoi? Bon, c'est pas grave, on passe, ça doit être une blague. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa. Mais par contre, pour la voix de 22, même si, donc du coup, ces blagues m'ont fait rire en VF parce que je les comprenais sûrement mieux ou parce que c'est peut-être la deuxième fois que je les écoutais et du coup, bah, running gag, j'ai trouvé que le timbre, il était bien plus ennuyant, comme elle dit, et du coup, bien plus adapté en VO. C'était la voix en VO de Tina Fey et en VF de Camille Cotin, que j'adore, hein, pourtant, mais j'ai trouvé que en VO, sa blague, sa voix, elle était carrément mieux, quoi. Ça collait, mais carrément. C'était effectivement, dès que tu l'entendais parler, t'es là, oh là là, t'avais envie de lui dire, non mais, allez, un peu plus d'entrain, allez, arrête avec cet air, la blasée, à la limite de l'insolence, vraiment.
Ouais. Ouais,
Voilà.
du coup, j'ai pas encore regardé en VO, mais bon, ça a bien marché. Moi, même si j'avais pas reconnu
Oui.
Camille Cotin, il y a quand même ce petit côté un peu blasé, un peu hautain
Oui.
qui marche bien quand même. Donc, ça m'a pas. Mais comme j'ai pas entendu la VO, je sais pas encore si.
Ouais, moi je pense que c'est parce que j'ai entendu la VO d'abord que j'ai eu cette sensation-là.
Ouais.
Mais bon, tu me diras.
Je te dirai. Donc pour revenir rapidement sur quelques personnages secondaires qui nous ont marqués, donc je vais revenir sur Connie, dont j'ai déjà parlé, parce qu'en fait j'ai une théorie, enfin je dis j'ai une théorie, mais en fait elle a été élaborée avec mon père justement quand je disais le type de discussion qu'on peut avoir en famille autour de la table après avoir vu le film. Donc voilà, c'est en partie lui qui a eu cette idée-là, mais en fait on a eu cette idée-là hein, quand je me suis dit mais en fait ouais. Quand 22 rencontre Connie, elle se retrouve vraiment chez elle. Enfin, elle le dit, hein, ah, mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui pense comme moi, etc. Enfin, je ne sais plus si elle dit ça exactement comme ça, mais dans le côté, ouais, l'école, c'est de la merde. De toute façon, tout le monde, c'est nul, le monde est nul, tout ça. Je me demande, mais ça colle pas parce que Connie a quand même cette passion, sa flamme, c'est quand même la musique, et c'est pas le cas pour 22. Mais je me demande si Connie, c'est pas... l'âme de Connie, c'est pas 22, justement, en fait. Et que, parce que le grand avant, le grand après, on a l'impression qu'il est un peu hors du temps, enfin... Peu importe.
Ils le disent qu'il est hors du temps.
Voilà, donc les mentors, c'est des mentors de toutes les époques. Donc en fait, à partir du moment où on s'incarne, tu vois, par exemple, 22, quand elle s'incarne, elle pourrait très bien s'incarner dans quelqu'un du Moyen-Âge comme dans quelqu'un du futur, quoi. C'est pas... Pour moi, en tout cas, c'est déconnecté de...
Mais ils le disent. Quand il lui a dit « je perds mon temps ici », il lui a dit « non, 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 ici, il n'y a aucun temps, rien n'existe. »
C'est ça. Et du coup, je me dis peut-être qu'en fait, 22, elle s'est incarnée dans Connie, en fait. Et du coup, on a eu... Enfin, là, c'est là où mon père a eu cette idée de scène finale qui m'a manqué et qui aurait été, mais juste, trop belle. C'était de se rendre compte, bah, justement, de ça, que 22 s'est incarnée dans Connie. Et ils auraient juste eu besoin de montrer Connie à la fin, parce que moi, il m'a manqué aussi cette scène. Enfin, Connie, on la voit au début, on la voit au milieu, et il aurait fallu qu'on... Enfin, pour moi, dans une narration parfaite, entre guillemets, il fallait qu'on la voit à la fin. Mais, et donc, il aurait juste fallu qu'on la voit, mais très rapidement, hein, pendant quelques secondes, avoir ce même geste, enfin, ce même regard avec les petites graines de tilleul là, qui tourbillonnent. Je ne sais pas si c'est tilleul, mais...
Ah, oui.
Et que juste, elle ait cette fascination aussi pour ça, qu'elle regarde et qu'elle soit émerveillée par ça... ça aurait suffi, tu vois, genre dire « Ah, trop bien, trop !» Enfin, ça aurait été la petite chose qui aurait permis qu'on comprenne comment s'incarne 22 et du coup, ma petite théorie sur, voilà, Connie à l'âme de 22, je laisse ça ouvert.
C'est une théorie mignonne. C'est une théorie sympa, j'aime bien. J'aime bien. J'aurais pas pensé, parce que... Effectivement, Connie, on voit que elle, ça, on va pas dire ça, justement, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est pas sa raison de vivre, mais sa passion, son étincelle, on voit que c'est le trombone, on voit qu'elle est vraiment passionnée par ça, alors que quitte à ce que se faire un peu moquer par les autres, on le voit en classe. Et du coup, 22, c'est pas vraiment ça, justement, c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'elle en a pas vraiment de passion comme ça. Donc, ça aurait été un peu dommage que ce soit les mêmes, dans le sens où, justement, c'est intéressant, je trouve, de montrer qu'une personne peut avoir une raison de vivre sans avoir de passion.
Ouais.
Mais l'idée est intéressante.
Ouais, mais c'est vrai que le parallèle, ça venait aussi, bah, justement, de la raison pour laquelle Connie n'arrête pas de dire qu'elle va arrêter la musique, etc. C'est aussi à cause du regard des autres, c'est à cause des moqueries, etc. Et c'est ce qui a empêché 22 de s'incarner pendant longtemps, parce qu'elle s'est pris plein de critiques dans la tête, lui dire que maintenant t'es pas assez douée, ou t'es nulle, ou t'es trop bizarre, t'es trop décalée, et donc c'est ça qui me faisait un peu le parallèle. Mais je suis d'accord que c'est bien, c'est mieux de se dire que 22, même incarnée, elle aura jamais, ça sera jamais une virtuose de la musique, parce que c'était clairement pas son truc, mais ça sera jamais une virtuose dans quoi que ce soit, mais elle ça sera quand même une personne pleine de vie, quoi. Donc
exactement. Dernier personnage, juste j'ai envie de le mentionner parce que j'ai eu un petit coup de cœur, alors qu'on le voit 3 minutes, mais j'ai adoré Dez. Alors je précise parce que Marjo, sur le moment, elle se rappelait même plus qui c'était. Le coiffeur.
Oui.
Dez, le coiffeur. En fait, j'ai adoré son style, son look, sa façon de parler, que ce soit en VO ou en VF, là, les deux. Le fait qu'il croque la vie à pleines dents, même si, bah ok, il a pas réalisé ses rêves, mais c'est pas grave, il est bien heureux comme ça. Enfin vraiment, les personnes positives comme ça, j'ai adoré, je l'ai trop aimé. Et à chaque fois, ça a été rien que de le voir la deuxième fois, j'ai souri toute seule.
Ah ouais, moi je trouve que c'est la scène chez le coiffeur, c'est une de mes préférées du film. Et Dez, avec du coup la scène avec Connie, mais du coup, ouais, Dez fait partie de la raison pour laquelle j'adore vraiment beaucoup, beaucoup cette scène, quoi.
Et je pense qu'on en parlera quand on va parler de la morale, mais ça a beaucoup joué aussi sur l'évolution de Joe.
Mmh. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a ce que tu as mentionné tout à l'heure, le fait que Dez dit, c'est la première fois que tu me parles d'autre chose que du jazz.
Ouais.
Et là, ça a donné un petit coup, là, dans le... pour Joe, qui dit, ah, mais c'est vrai ! Mince !
C'est ça.
Comment ça se fait que je connaissais rien de sa vie ? Et tu lui as jamais demandé.
Ouais. Ouais. On enchaîne sur un autre sujet.
parler bah, la musique, évidemment, parce que je pense que déjà, le fait d'avoir choisi cet univers du jazz, c'était vraiment un choix qu'ils ont assumé, là, pour le coup, je trouve, jusqu'au bout. Et je trouve que c'est un des gros points forts du film, que ça ouais. donne une ambiance vraiment chouette, même si je ne suis pas une grande spécialiste ou amatrice de jazz. J'aime bien, mais je ne suis pas... Voilà, c'est pas mon milieu, ouais, c'est pas ma culture, donc... Mais je trouve ça vraiment très... Ça rend vraiment très, très bien. À nouveau, il y a une vidéo making-of là, autour du film qui montre cet aspect. Et on voit que vraiment, ils ont traité ça avec beaucoup, beaucoup de respect. Et ils ont impliqué des gens qui sont vraiment des références de ce milieu. Et ouais, ça... Bah ouais, pour moi, c'est ça l'âme du film, en fait. C'est ouais, tout ce côté musique. Et ouais. Ça me donne, du coup, encore une petite frustration de ne pas l'avoir vu au cinéma. Parce que même si on a une bonne barre de son, je pense qu'avoir... le côté musical, l'univers sonore du film dans une salle de cinéma, ça m'aurait permis d'être encore plus dedans, je pense, aussi.
Peut-être, c'est vrai. Mais moi, pareil, j'ai adoré cette ambiance grâce à la musique. Pour avoir été dans des clubs de jazz à New York, en fait, j'avais l'impression d'avoir fait le voyage à nouveau et ça m'a rendu hyper nostalgique. La musique, elle est superbe. C'est un choix osé, je trouve, pour Pixar, parce que tout le monde n'apprécie pas le jazz, en fait. C'est vraiment un style de musique particulier. Et quand j'étais ado, je sais que j'aimais pas ça. Le jazz, le blues, c'était des musiques très... Que je comprenais pas, tout simplement.
Ouais, élitiste,
Ouais, voilà. Moi, j'aimais bien les choses très carrées. Et effectivement, comme ils disent, il y a des notes un peu dissonantes. Enfin, des fois, ça part et tu comprends pas et c'est imprévu. Et je sais que, bon, moi, je fais du piano depuis que j'ai 5 ans. Et j'avais fait des stages de jazz pour apprendre à... Et c'était horrible, c'était les pires moments de ma vie. Je me sentais nulle, je comprenais pas, j'arrivais pas... En fait, j'arrivais pas à me lâcher et à faire comme lui, tu vois, à improviser, à partir en transe. J'avais toujours l'impression que c'était moche. Et ma prof de stage me disait « Mais non, continue, c'est bien !» J'étais là « Mais non, c'est nul, j'y arrive pas !» J'essayais de repartir sur des classiques, mais c'était très dur. Et maintenant, je regrette un peu, parce que c'est vrai que je trouve que c'est super et j'aime beaucoup ça à mon âge. Et du coup, je trouve que c'est une chouette idée d'être partie sur cette voie-là, parce que, bah, effectivement, les enfants et les adolescents, je pense que c'est pas le style de musique qu'ils écoutent. Et du coup, si ça peut faire découvrir et aimer, je trouve ça super.
Ouais, je suis d'accord. Et du coup, par rapport à ça, en fait, tout ce qui est... à partir du moment où Joe est au piano, c'est en fait John Batiste, donc qui est un grand... jazzman qui joue, donc qui a créé toutes les parties de piano de Joe et qui a aussi été une référence pour sa gestuelle. Ils ont filmé ses mains sur toutes les coutures pour recréer ça, ou sa posture, comment il se tient sur le piano, etc. Et encore une fois, j'ai l'impression de répéter ça 10 fois, mais les scènes, les vidéos de making of à ce propos sont assez fascinantes. Donc oui, et puis en plus du coup, ouais, John Batiste, j'ai pas été surpris de le voir au générique, parce que j'avais, en voyant Joe jouer, je me suis dit, tiens, j'ai déjà vu ça. Enfin, pourtant, je suis pas du tout amatrice de jazz et je connais pas de jazzman. Mais ça me dit quelque chose. Et en fait, je regarde pas mal sur YouTube l'émission de Stephen Colbert. Et en fait, il est accompagné, comme beaucoup ce genre de talk show américain, par un groupe de jazz. Et c'est John Batiste qui est un peu le leader de ce truc-là et qui est au piano. Et il échange beaucoup avec lui parce qu'il a une personnalité assez, assez fun aussi, ce gars. Et du coup, bah, je connaissais John Batiste, mais je ne connaissais pas. Donc, c'est un peu le seul jazzman que je connais au final.
C'est déjà ça. Hein.
Et j'aime beaucoup sa personnalité, en fait. Donc, ça m'a fait plaisir de me rendre compte qu'il était impliqué dans ce film, quoi.
Du coup, pour les non-connaisseurs de jazz, c'est un grand jazzman qui a été formé à la Juilliard School à New York, qui a travaillé avec des grands noms comme Stevie Wonder, Prince, Lenny Kravitz, bon, bref, vraiment un grand nom du jazz. Et il est également le directeur créatif du National Jazz Museum à Harlem.
Cool.
Dernier point concernant la musique, et on n'en a pas parlé, Marjo. Est-ce que les fans d'Hamilton ont reconnu la voix de David Diggs?
Alors...
David Diggs dans... Hamilton, c'est celui qui joue Lafayette et...
Jefferson.
Et Jefferson. Et qui joue aussi dans Snowpiercer. Mais bon,
on l'entend pas chanter, là.
Non. Mais on l'entend aussi parler. Hein.
Bah donc oui, mais je l'avais pas vu en VO. Je l'avais pas vu en VO.
Ah, mais
du
oui,
coup, j'avais pas du tout fait le lien.
Mais
Mais par curiosité, je suis allée chercher, donc c'est le personnage, je sais pas si je me souviens plus de son nom, mais qu'on voit dans Paul. Le coiffeur, qui est celui qui énerve Joe parce qu'il est très hautain, etc. Et donc oui, effectivement, en l'écoutant, là, en réécoutant, je dis « Ah mais oui, bien sûr, c'est la voix de David Dix !» Mais je savais pas du tout fait le lien. Oui. Et puis la petite chanson, mais... le petit rap qu'on voit dans le groupe de Joe adolescent, pareil, j'avais complètement passé à côté. Je l'avais trouvé trop rigolo, cette scène, mais j'avais pas réalisé que c'était lui qui chantait.
Alors, je te rassure, moi non plus. Donc, dans le hall des souvenirs de Joe, au tout début du film, on le voit chanter avec son groupe quand il était adolescent. Et effectivement, là, c'est un rap de David Diggs, qui est trop marrant. Rappin' said is the name and you should get it right. Blowing up on the scene like dynamite. Joey G on the keys, KT and Tommy with me. How much you wanna bet? We can take the whole city. See us styling from the island all the way to BK. Boogie down made the sound, but we took it away. I go to Harlem, it's no problems if you know what I mean. Now everybody bow down to the kings of Queens.
Yes. Et pour quand même pour finir sur la musique, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, parce que bon, là j'avoue que ça me parle beaucoup moins, mais en fait le film se sépare en deux évidemment, il y a ce qui se passe à New York, donc là c'est ambiance jazz, et puis tout ce qui se passe dans le grand avant et aussi dans le chemin vers le grand après, c'est une musique complètement différente qui a été faite par Trent Reznor et Atticus Ross, et qui sont des noms très très connus de l'univers électro. Ça me parle pas du tout, hein, donc je les connaissais pas, mais ils sont maintenant aussi de plus en plus connus pour leur travail sur des musiques de films. Et ils ont déjà eu un Oscar pour The Social Network, mais ils ont travaillé sur d'autres films aussi, je sais plus lesquels, mais...
Gone Girl.
Voilà, donc...
Entre autres, mais je sais pas les autres.
Ça devient aussi un peu des références, donc... le making of qui parle de la manière dont ils ont créé cet univers sonore pour le grand après et le grand avant sont vraiment fascinantes, mais ça me parle un petit peu moins, quand même.
Ouais. On part sur la qualité visuelle
oui,
de ce film.
Bah, moi, je ne vais pas rajouter grand chose sur ce que j'ai déjà dit. Je trouve que c'est magnifique. En particulier, les parties à New York. Je trouve que c'est vraiment parfait. Moi, qui ne suis jamais allée à New York, j'avais l'impression d'y être quand même. Donc, ça a vraiment très, très bien marché. Le grand avant, je suis un peu plus... J'aime bien l'aspect très éthéré, mais je suis un peu plus... c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Par contre, comme j'ai dit, le plan astral et la zone, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est quand même la perfection là, de la reconstitution très, très réaliste de New York qui m'a le plus plu, et je crois que toi aussi.
Moi, je suis amoureuse de New York. C'est ma ville préférée. Alors, je fais un appel au studio Pixar. Maintenant que vous m'avez fait New York, ma ville préférée, s'il vous plaît, faites un Pixar en Irlande, hein. C'est mon pays coup de cœur, le pays de mon cœur. Ça serait super.
Alors,
merci.
Quand on est dans les commandes, moi, je veux bien un Édimbourg aussi, s'il vous plaît. Merci.
Ah ouais, pas mal. Non, mais donc, New York, ouais, c'est vraiment ma ville coup de cœur. J'y suis allée déjà 3 ou 4 fois. Je m'y sens tellement bien là-bas. L'atmosphère qui s'y dégage et tout. Et en fait, j'ai retrouvé ça dans le film, vraiment. Et du coup, un grand bravo. Et d'ailleurs, j'ai eu cette impression, tu vas me dire ce que t'en penses, mais... Quand ils arrivent à New York la première fois, j'ai trouvé que les sons étaient plus forts, comme pour montrer effectivement que par rapport au son épuré et très doux de l'en avant. Et de là, quand 22 arrive, j'ai l'impression qu'elle entend tout plus fort. Ah et oui. Ça m'a fait sursauter les 2 fois. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste moi?
Ah oui, oui. Ah non, c'est totalement ça. Parce que c'est vraiment pour montrer. Parce que comme tout est éthéré, un peu flottant, et qu'elle n'a jamais eu en plus de corps physique, là, tout d'un coup, elle se retrouve complètement submergée. Et c'est vrai que ça fait un effet là quand tu te retrouves dans la rue de New York avec toutes ces, puis moi en plus qui suis pas très grande ville, enfin j'avais envie d'aller à New York, mais c'est vrai que ce côté trop là avec trop de monde, trop de bruit, tout ça, pareil, j'étais genre ah mon Dieu, moi aussi je me serais je pense pas que je me serais roulée dans un coin
caché
mais quand même ça m'aurait fait un petit côté genre c'est trop.
Et du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais Kem Powers, le co-réalisateur du film, il vient de New York. Donc, je pense que ça a beaucoup joué pour le côté immersif. Hein, donc, c'est cool qu'il ait été là.
Et c'est le quartier du Queens, je crois, qui est en particulier représenté.
Oui.
Je crois que c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais, j'y connais rien, j'ai jamais allé à New York, mais enfin, j'y connais, je le connais du coup via la culture populaire, parce qu'évidemment, New York, on le voit
Oui.
souvent. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait emmené à New York, donc c'était ça marchait bien aussi pour ceux qui y sont jamais allés.
Bah, c'est cool. Sinon, moi, au niveau de la qualité visuelle, j'ai adoré, en fait, bah, comme tu l'as dit, le contraste entre New York et les humains et le monde des âmes, où effectivement, on passe de dessins hyper réalistes, très impressionnants, à New York, à des dessins hyper simplistes et une gamme de couleurs totalement différente. À chaque fois, on a vraiment une gamme de couleurs qui est propre à son monde. Et je l'ai regardé, du coup, avec ma famille, et ma mère, tout de suite, m'a dit: oh, c'est nul, les dessins à New York, ils étaient trop beaux. Pourquoi est-ce que là c'est tout simple? Ils sont pas fatigués. Je lui dis non, mais. Elle me dit j'espère que tout le film va pas être là-dedans. Et je lui dis oui, mais regarde, si tu regardes, on voit que de près, ok, les dessins sont simples, mais il y a une sophistication dans la réalisation, dans les textures, dans les éclairages, dans les couleurs. On voit des choses vaporeuses, on a vraiment l'impression que la lumière passe au travers. Je lui dis c'est quand même incroyable. Et elle me fait oui, mais c'est mieux avant.
Je
Oui,
pense que c'était vraiment pour.
ok,
C'est l'effet qu'il
d'accord.
voulait faire, mais c'est vrai que.
Mais bien sûr, mais du coup le fait qu'on
Ouais.
retourne à New York après et qu'on passe en fait d'un monde à l'autre, ça marche vachement bien
Ouais,
justement
ouais,
grâce
ouais.
à ça. Et moi mon effet waouh du film, il est passé surtout sur ces palettes de couleurs qui sont très différentes et sur cette qualité visuelle qui est digne de Pixar en fait.
Ouais, mais encore une fois, là, le club de jazz avec cet effet de lumière là, quand sur la chanteuse, enfin sur la pas la chanteuse, là, la saxophoniste, je crois.
Saxophoniste.
Dorothy Williams, je sais plus, quelque chose comme ça.
Ah, je sais plus son nom.
Et dans Jackson, dans ma tête, c'était Dolly Jackson. Et je crois que c'est. Je sais plus.
Non, Dorothy, je crois que
Oui,
c'est
c'était
vrai.
Dorothy, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'avais retenu Dolly, mais non, c'était Dorothy. Williams, Jackson, je sais plus, quelque chose comme ça. Et ouais, on la voit avec dans l'ombre, avec juste la lumière par derrière, etc. Enfin, c'est splendide, quoi. Enfin, c'est vraiment très, 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 très beau. Ils se sont surpassés encore, parce que même quand on repense au dernier,
Ouais.
même Coco, qui était visuellement très beau, là, c'est encore un niveau au-dessus,
C'est
quoi.
encore un niveau dessus.
Ouais.
Je suis d'accord.
Alors,
Dernier point.
passons à la morale de l'histoire, même si on a commencé à en parler dans la partie des grandes thématiques, des concepts, mais bon, il y a quand même un message,
Ouais.
une leçon de vie qu'on doit tirer de ce film, donc
Même plusieurs, je dirais.
plusieurs, tout à
Au
fait.
final, alors, déjà, il faut savoir qu'avec ce film, le réalisateur, donc on a beaucoup parlé, Pete Docter, il a espéré que le film serait amené à réfléchir plus globalement à ce que la vie a à offrir et ce que nous avons à lui offrir en retour. Et il disait que parfois, ce sont les choses les plus insignifiantes qui, au final, comptaient le plus. Et effectivement, moi, je trouve qu'à travers surtout bah, 22 Joe, mais aussi Death,
Ouais.
on réalise ça tout au long du film. Comme on disait tout à l'heure, Joe, c'est un homme focus sur une seule chose, le jazz, qui vire vraiment à l'obsession. Et c'est son unique raison de vivre, il le dit texto plusieurs fois, la musique, c'est ma seule raison de vivre. Et ça, je trouve ça. Mais déjà, j'ai trouvé ça horrible quand il a dit ça. Je me suis dit, oh, comment tu peux dire ça? T'as une famille, enfin, bref.
Ouais, et puis
Il le dit aussi.
il dit même au début du film, ah bah une fois que j'aurai joué avec bah, cette grande star du jazz, je pourrais mourir heureux, quoi. Et déjà,
Oui.
en plus, comme tu sais qu'il va mourir juste avant, t'es genre, ah, c'est dommage.
Bah oui, mais surtout qu'il le dit, il le redit aussi, il dit « Ma vie commence enfin aujourd'hui ». Bah non, tu dois avoir plus de 30 ans, mec,
Il a
ta
40
vie,
ans,
elle
il
a
a plus
déjà
de 40
commencé,
ans,
quoi.
mais ouais, c'est. Ouais.
Et en fait, quand il meurt et qu'il découvre le hall de sa vie, il se rend compte que, comme il n'a pas réussi à percer, sa première réaction, c'est « Ma vie n'avait aucun sens ». Et à ce moment-là, j'ai ressenti plein de choses. Et même là, tu vois, j'ai des frissons. J'ai ressenti plein de choses. J'ai eu de la peine pour lui parce que je me suis dit, bah, c'est triste qu'au final, il soit pas satisfait et que quand tu le vois manger tout seul dans le diner, tu te dis, bah ouais, sa vie devait être triste. J'ai reçu beaucoup de peine pour ses parents. Je me suis dit, attends, ils l'ont quand même vécu avec lui, ils lui ont donné une enfance. Son enfance, elle avait l'air heureuse. Donc dire que ma vie avait aucun sens, j'avais aucune raison de vivre, je me suis dit, mais. Ouais, t'es égoïste, enfin, comment tu peux penser à ça? Pense un peu à ta famille. Et du coup, j'avais un peu d'énervement, voilà, en disant, face à lui, en disant, bon, ok, je veux bien que tu sois obsédé par la musique, mais t'es réfléchi un peu, quoi.
Ouais, non, je suis d'accord. Puis, mais c'est en plus, c'est le côté un peu ambigu de la première scène où il est prof, parce que tu as l'impression que bah, c'est pas sa passion, quoi. Il a pas, c'est pas sa vocation d'être prof, mais en même temps, il est touché par ses élèves, hein, en particulier par Connie. Mais donc tu dis, bon, bah quand même, il pourrait, l'effet qu'il a sur les enfants de temps en temps, en plus quand il se lance dans sa petite impro au piano en racontant, et on voit qu'il il a quand même de l'effet, quoi. Donc il pourrait dire quand même, alors peut-être que c'est un peu, ça parle à ceux qui ont un peu vocation d'enseignant ou de formateur en général, enfin qui aiment beaucoup transmettre et que lui, c'était pas. Il n'avait pas envie de transmettre, c'était pas ça qui le motivait. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'était un beau message de dire, parce que je pense que c'est quand même... Il y a beaucoup de Joe, quoi, qui existent dans la vraie vie, quoi. Donc,
Oui, beaucoup. Et du coup, au final, 22 et Dez, je maintiens que le coiffeur joue beaucoup.
Ouais, non, moi je suis d'accord.
Ils font réaliser à Joe que le bonheur, il se trouve dans des choses insignifiantes, et il y repense à tous ces moments-là à la fin, dans le sourire de ses parents, un lever de soleil, il va à la mer, il mange une pecan pie, dans l'enseignement, on le voit aussi, hein, du coup, quand il repense à tous ces petits moments de joie, il repense à ces moments d'enseignement, que ce soit dans ses cours ou quand il enseigne à Connie. Ou tout simplement, il y a un moment qui m'a bien plu, c'est quand il joue du piano pour lui et non pas pour le public. Parce que effectivement, je veux bien que la musique ce soit une passion, mais ça peut être une passion pour toi. Moi, je sais que quand je joue du piano, c'est pour moi. Je déteste jouer devant un public, donc ça joue aussi peut-être, mais je prends énormément de plaisir à jouer pour moi, à ressentir des émotions, à être dans cet état de transe, effectivement, quand je joue. Et j'ai pas besoin, tu vois, de le montrer et de... Bon, après, c'est des personnalités différentes, mais le fait aussi que, voilà, ça montre qu'il peut prendre du plaisir dans la vie et en jouant tout seul, j'ai bien aimé. Et il le dit lui-même à la fin, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie, mais ce qu'il sait, c'est qu'il va en savourer chaque instant. Et j'ai trouvé comme phrase de fin, c'était juste mais magique, et je pense que c'est pour ça que ça m'a pas dérangé qu'on revoie pas 22 après, parce que j'ai trouvé que la phrase finale, ça concluait le film et c'était beau comme ça, quoi.
Ouais. Non, je suis assez d'accord. En fait, encore une fois, je suis vraiment... Le message du film me parle et tout ce que tu dis, ça aurait dû me toucher et j'arrive pas encore à savoir pourquoi... parce que clairement, c'est un message que je trouve très très beau et normalement, un message comme ça, qui me parle, mis en scène par Pixar, ça aurait dû me faire pleurer direct, toi. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'arrive pas. Enfin,
j'ai vraiment fera un épisode update.
Ouais.
Dès que t'auras trouvé pourquoi.
Alors, je sais pas. Peut-être que c'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai jamais été une Jo. Donc, dans le sens où, par contre, là, pour le coup, par rapport à toi, pareil, j'ai plein de passions. Mais alors, j'y vais à fond. Là, pour le coup, j'ai aucune honte et aucune... Quand je suis passionnée de quelque chose, pour le coup, la zone, je la connais bien. Mais tu vois, comme j'ai assez de passions différentes, j'ai pas d'obsession non plus qui font que si je perds quelque chose, j'ai l'impression de tout perdre. Il y a trop de choses qui m'intéressent pour que j'ai ce focus monomaniaque, quoi. Mais c'est vrai que donc peut-être que c'est ça qui a fait que je me suis pas totalement retrouvée dans le message parce que j'ai jamais eu besoin d'apprendre cette leçon de vie entre guillemets et parce que aussi je suis très sensible de base. Enfin moi une balade en forêt ça me rend heureuse et ça me suffit, quoi. Et du coup c'est peut-être aussi que voilà, ou peut-être que simplement il y a 2-3 ans, peut-être que ça m'aurait fait pleurer. Et comme on disait, et aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé cette année, bah, ça m'a moins touchée parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà apprise, cette leçon, et que ça ne m'a pas apporté en plus, même si je trouve que le message est très beau et je suis très, très contente qu'il y ait plein de gens qui aient été hyper touchés et que j'ai vu tellement de témoignages de gens qui se disent « Ah, mais ça me fait vraiment réfléchir, ça me fait réfléchir sur moi, etc. » Je trouve ça génial et c'est parfait. Donc voilà, peut-être que dans 2 ans, j'aurai besoin de ce film et je le reverrai et il va me faire pleurer, mais pas aujourd'hui, pas au Noël de 2020.
Moi, je suis en plein en train de l'apprendre, cette leçon, parce que c'est vrai que j'ai tendance à me focaliser sur le négatif, à vite, il m'arrive un truc triste, à bloquer dessus, et c'est vrai que depuis peu de temps, j'apprends à apprécier les petites choses. C'était à un moment, j'étais pas en dépression, mais j'étais vraiment pas bien, et on m'avait donné comme conseil, et il me semble que c'était toi qui me l'avais donné en plus, de noter dans un carnet 3 choses positives qui m'arrivent chaque jour.
Ouais.
Et du coup, je commençais à le faire. Et effectivement, des fois, des tout petits trucs, j'ai lu un bon livre assis sur le canapé avec de la musique derrière, ou, enfin, tu vois, des tout petits détails, ou, oh, quelqu'un m'a laissé sa place dans le métro. Enfin, vraiment des trucs bêtes. Et en fait, le fait de les écrire chaque soir, et bah, ça me remontait le moral, et je me suis dit, bah, en fait, si, c'était une belle journée aujourd'hui. Et vraiment des petits détails. Et du coup, je pense que comme je suis en train de l'apprendre, cette leçon, ça m'a fait du bien de le revoir, qu'on me le redise, entre guillemets.
Ouais.
Mais du coup, il y a une scène qui m'a bien marquée à propos de ça. C'est, j'en ai parlé là vaguement, c'est quand il mange dans le diner, où qu'il est tout seul. Et qu'on disait, qu'il se rendait compte que sa vie n'avait aucun sens. Et du coup, de le voir manger tout seul dans le diner, c'était un moment triste pour lui, la première fois quand il l'a vu. Et quand il repense à tout ce qui est heureux dans sa vie, il se revoit dans ce diner, et en fait, là, il y a un focus sur la tarte, là, c'est de la pecan pie, j'adore en plus la pecan pie, et il y a un focus sur cette tarte, et sur son sourire, et en fait, cette scène, il la voit de deux manières différentes. La première fois, il la voit, bon, bah, il est triste, il mange tout seul parce qu'il vient de se faire rejeter d'un casting, et la deuxième fois, quand il repense à ce souvenir, il est heureux de manger sa pecan pie, qui a l'air délicieuse, franchement, elle est super bien faite, je crois que je vais aller me faire de la pecan pie, mais... Et en fait, tu te rends compte que effectivement, un moment triste peut aussi être un moment joyeux, et que c'est aussi ton interprétation qui fait que ça devient un petit plaisir du quotidien. Et j'ai trouvé ça cool que cette scène, ils la remettent deux fois.
Oui, ah ouais. Non, c'était très très bien vu. Et ça m'a pas mal parlé aussi cette scène, parce que manger seul, vu de l'extérieur, on peut se dire, oh là là, quelqu'un est en train de manger seul, c'est tellement triste et tout. Et en fait, cette personne-là peut être vraiment en train de kiffer à fond sa pecan pie ou son plat de bolognaise. Et ouais, ça dépend vraiment du point de vue, encore une fois, et de comment tu choisis de voir les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle, quoi. Mais qui a un très, très beau message. Et rien que pour ça, je trouve que c'est quand même chouette, la manière dont c'est fait. Mais donc, pour venir à autre chose, moi, qui m'a pas mal touchée, bah, encore une fois, c'est 22. Et parce que je trouve qu'elle permet d'apporter un peu une autre histoire en parallèle de celle de Joe. Et on en a déjà parlé, mais c'est cette angoisse, en fait, de ne pas avoir de passion. Et du coup, qui vire un peu à la dépression, parce qu'on a l'impression que rien ne nous fait plaisir. Et de se dire, mais en fait, j'ai aucun grand talent. Et j'ai l'impression que tout le monde a une vocation et que tout le monde est très doué dans quelque chose. Et moi, il n'y a rien qui me plaît assez pour me dire je vais me focaliser sur ça pour être douée là-dedans. Et que, en gros, être douée dans quelque chose, avoir une vocation, c'est ce qui te donne de la valeur dans le monde, dans la vie. Et du coup, c'est ça qui bloque 22, c'est que tous ses mentors lui disent, bah non, t'es douée en rien, il n'y a rien qui t'intéresse, donc tu ne mérites pas de vivre, quoi. On ne peut pas te donner ton passe pour aller pour t'incarner, quoi. Et ouais, et du coup, quand elle devient une âme perdue, et que ça vraiment, pour moi, c'est vraiment une image de la dépression, et notamment quand on rentre dans cette bulle de dépression, on voit que c'est l'acharnement des mentors qui ont fait que la déprécier, que la critiquer, et dans lequel elle se retrouve bloquée dans cette espèce de tourbillon négatif, quoi, et qui l'a fait qu'elle se... Elle s'est auto-persuadée qu'elle ne méritait pas de vivre, alors même si elle avait transformé ça en cynisme, en mode « la Terre, c'est nul », tout ça. Mais qu'en fait, c'était une manière de se protéger, et qu'à partir du moment où elle se retrouve incarnée, elle découvre finalement son vrai talent, qui est d'être sensible à ce qui l'entoure, et puis surtout d'avoir un effet positif, je trouve, sur les gens, tout ça, juste en parlant et en étant capable de les écouter, ce qui n'était pas le cas de Joe, et ce qu'apprend Joe grâce à elle. Et ouais, je trouve que c'est, je trouvais ça que c'était vraiment une très belle progression qui m'a vraiment touchée par rapport à, en parallèle de celle de Joe, et que ce contraste, en fait, qu'elle était à la fois la reine du cynisme dans le grand avant, et que dès qu'elle se retrouve sur Terre, elle est juste hyper enthousiaste, et elle trouve tout génial, quoi, depuis la part de pizza jusqu'à la sucette, de la grille d'aération, enfin, que tout, et que du coup, elle devient vraiment une enfant, alors qu'elle était ultra cynique, et que c'est une très vieille âme, en fait, qui est devenue hyper cynique, et que juste d'avoir ce rapport sensible à son environnement, ça la rend enfant, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très beau, quoi, comme message, et de la manière dont ça parle de dépression, etc. Je trouve que c'était très, très bien vu.
Ouais, c'était mené intelligemment, c'est clair. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça montre aussi qu'on n'est pas, on n'a pas besoin d'avoir une passion, une vocation pour être heureux. On peut juste aimer les petits plaisirs simples de la vie. Et que contrairement à ce qu'ils disent, enfin ce qu'ils disent, non, ils le disent pas vraiment, mais contrairement à ce qu'on a l'impression au tout début, c'est pas ta vocation, c'est pas ta raison de vivre.
Ouais.
Et ils nous le disent avec Dez, le coiffeur, quand il explique que bah lui non, c'était pas être coiffeur sa vocation, mais qu'au final bah ils sont satisfaits, qu'il est très heureux comme ça, mais qu'il avait d'autres rêves qu'il a pas pu réaliser à cause d'aléas de la vie. Et en fait, moi j'avais vraiment cette impression au tout début que les Michel expliquaient que ta vocation c'était ta raison de vivre, comme Joe l'a compris. Et à la fin, quand Michel lui dit « Oh là là, mais non, vous voulez à tout prix que la vie, elle ait un sens. » Et tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est pas ce qu'ils ont dit. » Non, c'est vrai, la vie, on peut être heureux, on peut vivre sans forcément trouver un sens à tout. Et c'est pas faux.
Ouais.
Ça fait, comme on dit, ça fait réfléchir.
C'est sûr que c'est pas mal. Enfin, moi, c'est peut-être l'aspect qui me parle plus à un moment T de ma vie, à 30 ans, où il y a plein de choses qui changent et qu'on fait décroître certaines choses et qu'on se découvre du plaisir dans d'autres.
Oui.
Mais il y a ce côté de se dire, bon, bah, on n'est pas forcément obligé d'être doué dans quelque chose d'impressionnant pour les autres, en fait. Que c'est pas
tout à fait.
Vraiment ce qui nous motive et ce qui nous rend... ce qui nous donne de la valeur pour soi-même et puis pour notre entourage, c'est pas forcément quelque chose d'hyper impressionnant d'être un virtuose dans quelque chose, mais que ça peut être des choses beaucoup plus discrètes et plus... mais au final, comme tu dis, comme Docteur le disait, que c'est des choses insignifiantes, entre guillemets, enfin qui semblent insignifiantes, mais qui ont beaucoup de sens, finalement. Donc c'est...
Oui.
Voilà.
Et puis, on n'est pas obligé d'être doué pour aimer. Hein. Je suis désolée, mais je suis nulle en jeux vidéo. Je suis vraiment une quiche, mais je pense qu'il n'y a pas pire que moi. Mais pourtant, j'adore ça, je m'éclate. Bon, ok, quand je tombe dans la 15e fois le même ravin parce que j'arrive pas à prendre une corde pour sauter, ça me saoule et je passe la manette à Thibaut pour qu'il passe, voilà. Mais après, je récupère et j'aime bien. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'être doué et d'être fort pour aimer aussi faire des choses. On peut aimer faire plein de petites choses, même si on est nul aussi.
Tout à fait.
Et le dernier point dont je voulais revenir, parce que c'est une citation que j'ai revue aussi un peu dans les commentaires, c'est le fait qu'on a aussi tendance à chercher le bonheur ailleurs qu'avant de le voir sous nos yeux. C'est la fameuse citation « L'herbe est plus verte ailleurs
».
Et là, ils le disent, mais avec une autre citation, c'est l'histoire du petit poisson qui demande au grand poisson « Hey, je veux savoir où est l'océan ». Et il lui dit « Bah, tu es dedans ». Et il lui répond « Mais non, je suis dans de l'eau. » Et il lui dit, mais oui, mais c'est l'océan. Et tu te dis, c'est vrai qu'on a tendance toujours à penser que notre bonheur sera ailleurs plutôt que de chercher, enfin, de regarder d'abord sous nos yeux est-ce qu'il y est avant de. On a un côté internel insatisfait, hein, ça c'est typique français, mais c'est aussi typique dans le monde, je pense.
Ouais.
Et c'était marrant qu'ils en parlent. Et en fait, je trouve ce que j'adore dans ce film, c'est qu'en fait, il n'y a pas une morale, mais il y en a 50.
Ouais.
Là, on a parlé de plein de trucs différents.
Ouais,
et je pense que si on le revoit une troisième fois, on en aura encore d'autres qui vont ressortir.
Ouais, mais c'est vrai que ce moment-là, parce que moi j'étais un peu sûre, enfin même si je me doutais que c'était un peu la morale la conclusion auquel allait arriver Joe une fois qu'il aurait accompli son rêve et puis qu'il en sort, puis se rend compte que sa vie a pas changé, il se sent toujours un peu vide, enfin il lui manque quelque chose. Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais comment il peut se sentir comme ça alors que juste avant on a eu cette scène où tu sens qu'il est dans son moment à fond. T'as l'impression qu'il en profite pourtant, tu vois, qu'il est dans son moment, il est totalement dans la musique, il apprécie l'échange avec les autres musiciens, etc. Et c'est dès qu'il en est sorti, il se dit, bah ok, et maintenant, enfin, et du coup je me suis dit, mais mince, enfin, c'est vrai qu'il y a plein de gens comme ça qui arrivent pas à se dire, mais je viens de vivre une expérience géniale et j'en garde quand même quelque chose, enfin... C'était, je suis contente d'avoir vécu ce moment et je peux être juste contente d'avoir vécu ce moment et puis me dire bon bah il y aura d'autres moments cool qui vont venir, mais peu importe ce qui va venir, ce qui s'est passé c'est aussi important. Et c'est vrai que c'est une belle leçon et je suis vraiment contente que ce soit visible ce type de leçon parce que c'est vraiment triste qu'il y ait des gens qui passent à côté.
Mais typiquement, je sais pas si toi, moi ça m'a déjà fait ça, quand je sors d'un concert ou quand je sors des fêtes de Noël ou quand je sors quand on fête mon anniversaire avec des amis proches et tout, le lendemain quand tu te retrouves tout seul après avoir vécu ce moment de dingue, où tu te dis est-ce que je vais revivre un moment où j'étais aussi heureuse, tu te poses vraiment la question, enfin moi en tout cas je me la suis déjà posée en me disant Ok, c'était super. Là, typiquement, bon, je vais me marier. On est en train de préparer tout ça et tout, et on imagine un moment génial. Et en fait, c'est un peu, on va pas dire notre objectif de vie, mais tu penses vraiment à ça, tu penses vraiment à, voilà, je vais organiser, je vais faire ci, je vais faire ça, faut qu'on fasse comme ci, faut qu'on fasse comme ça, faut qu'on crée ci. Et en fait, c'est un peu ton objectif de vie, entre guillemets, c'est pas mon objectif final, mais c'est un objectif que t'as. Et quand ça se termine après aussi longtemps, et que par un moment super, tu te dis, ok, et maintenant? Et forcément, t'as ce petit ouais. moment-là, tu vois, où je pense que ça s'est déjà arrivé à tout le monde,
oui.
en effet. Hein.
Ouais, ouais.
Mais c'est bien de se dire, bah non, la vie s'arrête pas là, il y a d'autres moments joyeux, plus joyeux, moins joyeux, mais est-ce que le bonheur, ça se quantifie? Faudrait pas, non?
Ouais.
T'es heureux, et c'est, voilà.
Et puis juste être content d'avoir réussi à profiter du moment au moment où ça se passait, enfin, de se dire, ouais, bah c'était cool, et même si c'est dans le passé, bah c'est cool que ce soit passé, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Bon, il serait peut-être temps de conclure.
Oui.
On a beaucoup blablaté.
Pour une review, elle est un peu longue.
Je crois que c'est notre plus longue review. Mais il y avait plein de choses à dire. Bon, avant de finir, Marjo, j'ai deux questions à te poser. Ou à poser à ceux qui nous écoutent et qui voudront répondre dans les commentaires. Première question. Comment Vente de Lune, il comprend Joe quand il est chat?
Alors, je pense que c'est parce qu'il est, comme il dit, il est décalé.
Ouais.
C'est ce qui lui permet d'ailleurs d'être conscient dans la zone. Et il est un peu, ouais, enfin, tu sais, c'est un peu tous les mystiques et tout ça qui réussissent à avoir des expériences, comment on dit, extracorporelles.
Avec l'au-delà.
Je sais plus, enfin ouais. Bref. Certes, il a toujours son lien avec son corps terrestre, mais il est un peu entre les deux, quoi. Et du coup, il a réussi à, enfin, comme il est conscient dans la zone et qu'il reste conscient quand il retourne dans son corps, je pense que c'était ça qui lui permet d'entendre Joe, quoi.
Peut-être.
Mais,
ouais,
tu sais, comme tous ces gens un peu mystiques qui entendent des voix, quoi, qui se disent
oui,
ouais, je suis en connexion avec un autre plan astral et je peux entendre ce qui se dit dans ce plan-là. Donc, je pense que ça évoque un peu ça. Mais...
Deuxième question. Et en fait, j'en ai une troisième après. Pourquoi le chat, à la fin, il n'est pas mort alors que son âme, elle est partie dans le grand après lorsque Joe a pris sa place dans le corps du chat?
Alors là, je pense, et c'était, je pense, une question que tu avais tout à l'heure par rapport à est-ce qu'il y a des âmes qui s'incarnent en animaux. Je pense que le message qui est, j'y avais jamais pensé, mais maintenant que j'y pense, qui est un petit peu contestable, c'est que je pense que clairement le message c'est les animaux n'ont pas d'âme. Mais
non, on la voit.
Ah bon?
On la voit partir dans le grand après. Oui.
Ah oui,
on
c'est
la
vrai.
Voit sur, et il est trop marrant d'ailleurs.
T'as raison.
Bah ouais, il est tout seul sur son truc là, sur une espèce de tapis roulant.
Bah oui, mais parce que.
Non, on la voit.
D'accord, ouais, t'as raison. Du coup, je sais pas, elle a été récupérée.
Qu'est-ce qu'il la ressorte? Je sais pas, j'en sais rien, je trouve ça trop bizarre. Bah non, parce que sinon, ses comptes ne seront plus bons. Parce qu'ils ont modifié les comptes juste pour Joe. Les comptes de Terry. Je sais pas. Ça m'a perturbée.
Mais à partir du moment où l'âme du chat, elle va dans le compte après, les comptes devraient être bons.
Bah oui,
et pourtant,
c'est ça
Terry,
aussi.
Il est toujours
peut-être
en train
qu'il
de
est resté sur le. Peut-être qu'il est resté sur le tapis roulant, il a jamais rentré. Dans le tapis après, dans le grand après.
Peut-être.
Bon, je sais pas. Si vous avez une réponse.
Ou alors ça devient un chat sans âme, ce qui est un peu flippant. Mais
ça, ouais, un peu. Ouais, ouais. Ou alors ils ont mis une autre âme à sa place.
C'est 22.
Mais non, il reconnaît sa maîtresse. Mais non, il reconnaît sa maîtresse.
Oui.
Il parle, il court vers la voir.
Ouais.
Bon, je sais pas. Ça m'a perturbée, tu vois. Ça me perturbe encore. Et la dernière question, mais c'est plus une question rhétorique parce que je pense que c'est qui est Lisa?
Ah ouais, c'est ça aussi.
Bon,
c'est la question récurrente à la maison. Alors, on va voir Lisa à la fin ou pas?
Moi, je trouvais ça bien qu'il la montre pas.
Oui.
Que ça servait à rien. Mais je trouvais ça marrant qu'ils mentionnent une petite Lisa comme ça, à droite à gauche. Mais
parmi les choses à la fin, moi je m'attendais à ce qu'on revoie 22. Et mon frère était genre, moi je m'attendais à ce qu'il appelle Lisa.
Ouais, c'est vrai. Moi je pensais qu'il allait aussi la voir à la fin. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, on va conclure.
Oui.
Et j'aimerais bien conclure sur les mots de Pete Docter qui dit « Pour être heureux, vous n'avez pas besoin de réussir et de briller à tout prix. Vous pouvez juste être vous. »
Très beau, j'approuve.
Ouais, c'est beau, hein. Non, mais il y a plein de citations. Hein. Je vais me faire un carnet de citations de Saul. Et de ses réalisateurs. Ouais, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cette review vous aura plu et vous aura fait réfléchir. Et n'hésitez pas, du coup, à nous joindre sur nos réseaux sociaux. Donc sur Instagram, à Popcorn Therapy ou sur Facebook à Popcorn Therapy également. Vous nous reconnaîtrez, on est les petits carrés violets. et nous dire surtout si vous avez d'autres théories, d'autres interprétations et si vous avez une réponse sur cette histoire de chat. N'hésitez pas.
Surtout sur cette histoire de chat.
Surtout.
Et donc, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode qui, je pense, sera consacré à The Mandalorian saison 2. Je
oui
pense.
Oui, oui.
Où on a beaucoup aussi de choses à dire, vous vous imaginez bien.
Ah ouais, ça c'est clair.
Donc, on a hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À très bientôt.
À bientôt.